Plat rouscaille. La rouscaille.
Rouscailler, c'est-à-dire parler, taper l'embrouille, faire l'amour. Parce que le silence n'est pas la forme de communication appropriée.
Vous êtes sur Radio FPP 106.3 et vous écoutez La Rouscaille. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 janvier. Bonjour Anaïs.
Bonjour Olivier.
À la technique, nous accueillons Monsieur Président et Monsieur Seikou. Aujourd'hui, nous avions envie de vous parler de musique, mais de musique et d'animaux. C'est un thème qui va se modifier au fur et à mesure de l'émission, parce que ça sera peut-être un peu plus large que juste la musique et les animaux. Tout de suite, peut-être que tu aurais quelque chose à dire sur ce thème.
Ouais, alors moi, en fait, j'aimerais bien raconter un peu par où j'ai commencé les recherches pour préparer cette émission, parce que je suis tombée sur plein de trucs intéressants, tout d'abord en cherchant l'inspiration sur YouTube, ce qui est un truc assez classique. Donc je tape animal ou animaux musique sur YouTube et on tombe sur plein de vidéos absolument extraordinaires qui sont comme une glue qui nous attire et on pourrait passer des heures à toutes les regarder, des vidéos d'animaux qui font de la musique. Et alors c'est à la fois assez extraordinaire parce que par exemple on voit un chien à qui on a appris de chanter I Love You, on voit un perroquet qui a fait une reprise de Rihanna, c'est vraiment très impressionnant.
Génial, ça.
Ouais, on voit une dame qui apprend à son chat à jouer du piano, enfin on voit plein de trucs vraiment extraordinaires comme ça. Et donc à la fois à chaque vidéo, on se dit « Oh là là, mais c'est vraiment ouf ce qu'il fait cet animal-là, c'est vraiment extraordinaire et tout ». Et en même temps, on est aussi traversé d'une impression un peu moins agréable de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, mais pourquoi les gens font ça, pourquoi les gens se donnent tant de mal pour apprendre aux animaux à faire de la musique.
C'est, c'est génération hashtag je suis chien.
Oui, ça doit être ça l'explication sûrement. Bon, en tout cas, à force de regarder toutes ces vidéos, il y a quand même un effet un peu déprimant qui donne un peu la nausée. Déjà, la première cause de ça, je pense que c'est parce que les animaux, ça se voit tout à fait sur les vidéos, ça a l'air de les faire chier de faire ça. Ils n'ont pas l'air du tout contents, ils ont l'air complètement blasés, le chat là, avec sa patte sur le piano. Ils n'ont pas l'air du tout de prendre plaisir à ça, et c'est très visible qu'ils font ça parce qu'on leur a appris. Et voilà, à titre d'exemple, on pourrait passer un premier enregistrement qui est un cheval qui joue du piano. Écoutons.
Mais moi, je trouve ça pas mal.
Mais oui, c'est ça. En fait, ça, à chaque fois, c'est hyper ambivalent parce qu'à la fois, on a envie de dire « Ouais, mais c'est génial, c'est digne d'un grand pianiste qui improvise. »
Tu fais du free jazz.
Voilà, exactement. Et en même temps, on est quand même aussi traversé d'un sentiment d'absurde parce que en fait, c'est juste... Quand on voit la vidéo, on voit très bien que le cheval, donc c'est avec sa bouche qu'il fait sur les touches de piano. Et on imagine très bien qu'en fait, on a juste dû lui mettre des grains sur les touches de piano. Et du coup, il est occupé à toute autre chose qu'à faire de la musique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de lécher les choses, le sucre ou je sais pas quoi qu'on a mis sur les touches de piano.
Mais j'ai une question. Ouais. Excuse-moi de te couper, mais... parce que j'ai du mal à imaginer, parce que j'ai pas la vidéo, un cheval qui joue du piano, c'est-à-dire un piano avec des protections, le piano est au sol.
Non, c'est un piano, c'est un clavier électrique qui est posé sur un pied comme si on pouvait en jouer dans le pré du cheval. Et le cheval, avec sa bouche, ses babines, il fait blablabla. Voilà.
D'accord, et on voit pas la personne qui filme.
Non,
ça serait intéressant.
Ouais, ça serait intéressant. Mais moi, je suis presque sûre qu'il y a un truc. On sent qu'il lèche en fait les touches de piano parce qu'il y a un truc à manger dessus. Et du coup, c'est ça aussi qui met un peu mal à l'aise, c'est le contraste entre ce que doivent ressentir les animaux, qui sont intéressés uniquement par l'appât de la nourriture, j'imagine à chaque fois, que ce soit à titre de récompense ou directement sur l'instrument, et les humains qui s'extasient, ah, incroyable, un cheval qui joue du piano, ou voilà, on voit souvent des grands-mères qui apprennent à leur chat à jouer du piano et qui leur disent, oh, good cat, oh, you're a good boy. Je dis ça en anglais parce que c'est peut-être souvent des Américains. Bref.
Ça sera le sujet d'une autre émission.
Oui. En tout cas, ça pose une autre question qui est pourquoi est-ce que les humains tiennent tant à apprendre à leurs animaux à faire de la musique? Et moi, c'est aussi ça qui me déprime un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est une sorte de conséquence du fait que le monde aille mal et que quand même beaucoup de gens s'en rendent compte. Et que c'est un peu comme si le seul espoir qu'on pouvait mettre au monde, qu'on pouvait avoir pour pour le monde qui nous consolerait du désastre et de toutes les choses moches qui se passent dans le monde, ça serait de regarder des animaux mignons faire des choses mignonnes, comme par exemple jouer du piano. Et du coup, c'est à la fois ces vidéos très drôles et très tristes, je trouve. Alors, on pourrait peut-être en écouter une deuxième. C'est une vidéo de Nora the Cat, qui est une chatte très célèbre sur la YouTube-osphère. Et donc, c'est une chatte qui joue du piano. Et elle a été filmée, enregistrée. Ensuite, il y a un montage de ces vidéos qui a été fait. Mmh. Et ensuite, il y a un chef d'orchestre et compositeur suffisamment fou pour avoir cette idée-là, qui a composé un concerto, donc avec un orchestre, pour accompagner le soliste, cette chatte qui joue du piano. Voilà, donc c'est Nora the Cat. On peut l'écouter.
On l'écoute alors. C'est drôle.
Bah oui, c'est quand même plutôt marrant. C'est incontestable qu'il y a un effet comique d'imaginer. Parce que quand on ne sait pas que c'est un chat, on pourrait croire que c'est quelqu'un de très inspiré, qui a un air en fermant les yeux comme ça, très concentré. Et en fait, non. C'est un chat qui a l'air de s'en foutre complètement de ce qu'il fait. Et voilà, donc à la fois, ça, peut-être que ça prouve que les animaux peuvent être musiciens, mais aussi peut-être que ça prouve tout simplement qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est toujours ambivalent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans toutes ces vidéos qui cherchent à faire de la musique aux animaux, ce qu'on peut constater, c'est qu'à chaque fois, on essaye de tirer les animaux vers notre monde musical, oui. Et rarement l'inverse. Alors du coup, peut-être que plutôt que pour penser d'autres rapports entre la musique et les animaux, il faudrait plutôt écouter les animaux plutôt que de leur apprendre à faire jouer du piano ou faire de la musique comme nous. Pour ça, on rencontre aussi d'autres problèmes, comme par exemple, je suis tombée toujours sur YouTube, c'est la dernière vidéo YouTube, après on arrête, une vidéo qui est faite pour apprendre aux enfants à reconnaître les cris d'animaux. Et du coup, on entend ces animaux successifs que les enfants doivent apprendre à reconnaître et tout, sauf qu'en fait, les enregistrements qui sont faits de ces cris d'animaux sont complètement sortis de leur contexte, de la situation où les animaux ont poussé ces cris-là. Et du coup, on ne sait pas du tout pourquoi, dans quels environnements, pourquoi est-ce que la vache mugissait, pourquoi est-ce que le cheval hennissait, pourquoi est-ce que la poule caquetait, exactement, on ne sait pas du tout. Et du coup, là aussi, on peut d'abord écouter cet extrait-là, donc cet extrait de sons d'animaux pour les enfants. Et après, je vous en dirai plus.
Alors, mais oui, je ne sais plus ce qu'on disait, mais des bruits d'animaux.
Bah oui, c'est des bruits d'animaux, mais complètement sortis de leur contexte. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu triste dans le fait d'apprendre aux enfants à reconnaître les animaux sans leur apprendre en même temps à essayer de les comprendre. Parce que du coup, on apprend aux enfants juste à reconnaître « Ah, ça, c'est un cheval. Ah, ça, c'est une vache. » Mais on ne leur apprend pas à écouter parce que l'enregistrement est complètement sorti du contexte. Alors que, par exemple, moi, en entendant ce cheval hennir, j'ai tout de suite... parce que je connais quelques chevaux. Et du coup, j'ai tout de suite... Enfin, j'imagine j'imagine. Pourquoi est-ce qu'il est né comme ça? Peut-être parce qu'il a vu d'autres chevaux, parce que peut-être parce qu'il est tendu vers quelque chose, et que c'est pas juste un cri d'animal comme ça qui existe en dehors du monde.
Ça enlève toute identité à l'espèce animale ou l'espèce vivante que tu as en face de toi.
Ouais, ouais, ouais. Ça les désincarne complètement.
Exactement comme des animaux dans un zoo, un petit peu, qui seraient réduits à juste une figure visuelle, mais totalement dénuée de...
Ouais, qu'on cherche pas à comprendre.
Ouais.
Et par exemple, j'imaginais, quel effet ça ferait si on apprenait, par exemple, aux enfants à reconnaître les différentes langues du monde en leur passant un extrait de quelqu'un qui parle en chinois et qu'après on lui dise « Oui, ça c'est du chinois, bravo, tu as reconnu. » Après quelqu'un qui parle français, « Oui, ça c'est du français. » Après quelqu'un qui parle anglais, « Oui, bravo, tu as reconnu, c'est de l'anglais. » Ça paraît complètement impensable parce qu'on sait très bien que les langues, ça veut dire quelque chose et que du coup, il ne suffit pas juste de reconnaître les langues, il faut s'intéresser à ce que les langues disent et que du coup, pour les animaux, on pourrait penser pareil, qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant de reconnaître, d'assigner un son à un animal, de faire rentrer chaque animal dans sa case, dans sa catégorie, mais d'apprendre, peut-être au moins essayer de comprendre à minima ce qu'ils veulent dire. Voilà. Alors arrêtons avec les vidéos YouTube et on pourrait reprendre un tout autre parcours pour explorer encore ce lien entre les animaux et la musique qui fait le thème de notre émission aujourd'hui. Et par exemple, on pourrait commencer par ce constat que presque tous les instruments de musique sont fabriqués à partir d'éléments de corps d'animaux.
Mais c'est tellement vrai.
Ouais. Alors, par exemple, est-ce que tu sais, Ogier, quel est le premier instrument de musique au monde, dans l'histoire du monde? Enfin, fabriqué par des humains, en tout cas.
Une percussion avec une peau de...
Non.
Une flûte?
Oui, c'est une flûte. Et devine, quand est-ce que c'était?
La flûte?
Ouais, la première flûte.
La première flûte du monde,
ouais.
Quand la première flûte du monde a été créée.
Ouais, c'était... Ah, je te donne un indice, c'était il y a très longtemps.
Ok. Allez, je dirais il y a 90 000 ans ?
Non, un peu moins quand même.
Ah, 65 000 ans ?
35 000 ans, mais c'est déjà énorme, parce qu'il y avait encore les hommes de Néandertal, t'imagines ?
Dont on a un exemple.
Oui, oui, voilà, exactement, bien sûr, évidemment, peut-être c'était antérieur, mais la première flûte que des archéologues ont retrouvée, elle date d'il y a 35 000 ans, donc il y a 35 000 ans, juste pour donner un repère, il y avait les Néandertaliens qui étaient encore là. C'est peut-être eux d'ailleurs qui l'ont fabriqué, on ne sait rien, peut-être.
Sûrement.
Et en tout
cas, pas un animal.
Non, a priori, non, c'était des humains. Bah, quoique les Néandertals, c'est des animaux, non? Je ne sais plus.
Mais c'est justement, ça pourrait être également le thème d'une prochaine émission.
Oui,
parce
bon.
que des animaux, c'est une espèce vivante différente de l'Homo sapiens.
Ouais.
Mais c'est un grand singe. Mmh. Enfin, il paraît.
Bon, ne nous égarons pas.
Non, non, non.
Donc, en tout cas, cette première flûte, elle était taillée dans un os de vautour. Mais à l'époque, ils utilisaient aussi des os de cygne et l'ivoire des défenses de mammouth pour créer des flûtes. Il y en a plusieurs qui ont été retrouvés. Bon, donc dès les premiers instruments retrouvés, on utilisait les os des animaux. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, il y a plein d'instruments qui utilisent beaucoup de parties des animaux. Donc il y a pendant très longtemps les touches du piano, qui est un instrument quand même en Europe très très commun. Les touches du piano étaient en ivoire, c'est-à-dire faites avec des défenses d'éléphants. Dans les instruments de musique classique aussi, il y a évidemment tous les instruments à cordes donc on sait que
avec des boyaux, non ?
Les cordes étaient faites avec des boyaux, plus maintenant, sauf les instruments qui valent très cher et qui sont destinés à un usage particulier. Mais oui, c'était fait avec des boyaux de porc, de sanglier ou de mouton pour faire les cordes. Pour l'archet, on utilise des crins de chevaux. Et aussi, j'ai appris ça en faisant ces recherches, les luthiers, pour coller ensemble les différentes parties de bois, utilisent de la colle qui est faite à partir d'un animal, devine lequel ?
Le porc ?
Non, c'est le poisson.
Ah, le poisson ?
Du coup, quand
effectivement.
Le poisson, oui. Et donc, du coup, quand on joue du violon, par exemple, et ben, on fait se rencontrer des boyaux de porc, des crins de chevaux et de la chair de poisson.
Mais l'homme est magnifique.
Mais oui, c'est un truc un peu cosmogonique, quand même assez étonnant. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas que pour ces instruments-là qu'on utilise des animaux. Par exemple, pour l'accordéon, je ne sais pas si tu sais, mais que les soufflets sont constitués d'un savant pliage de carton et de fines peaux de chevreau.
Non, je ne savais pas.
Et ben voilà, je suis heureuse de te l'apprendre. Mais en fait, ça, donc là, j'ai évoqué surtout des instruments plutôt européens, mais aussi dans toutes les parties du monde, les instruments de musique sont construits à partir d'animaux. Par exemple, toutes les percussions sont construites avec différentes peaux d'animaux selon les animaux qui existent dans ces régions-là. Donc il y a des percussions avec des peaux de chèvre, de mouton, avec des peaux de singe, avec des peaux de vache, avec des peaux de castor. Dans les îles de l'océan Pacifique, il y a des peaux de requin aussi, des peaux de python aussi qui sont utilisées au Japon par exemple. Voilà. Et j'ai même appris aussi, peut-être que ça t'intéresse toi qui es guitariste, que le médiator qu'on utilise oui. pour la guitare autrefois a été fabriqué à partir d'une plume d'oie.
Oh, c'est vrai ?
Oui,
mais
tout à fait.
Mais c'est très intéressant ça, une grosse plume d'oie ? Parce qu'un médiator, c'est triangulaire, enfin de forme
ouais, bah, j'imagine, oui, une grosse plume d'oie assez rigide à l'extrémité.
Ah ouais. Ouais. Wow.
Bon, alors, et moi, toutes ces informations à la fois me fascinaient et à la fois, je commençais à me faire une remarque, c'est qu'en fait, notre corps humain, il est quand même assez semblable à celui des animaux. On a aussi des crins qu'on pourrait utiliser pour faire des archers, on a aussi des boyaux qu'on pourrait utiliser pour faire des instruments, on a aussi de la peau qu'on pourrait utiliser pour faire des percussions, et pourtant, j'ai jamais vu aucun exemple d'instrument de musique qui aurait été fabriqué à partir d'un élément du corps humain. Donc c'est comme si on réifiait la frontière entre les animaux et les humains en faisant en sorte que ce soit les humains qui utilisent des instruments de musique faits à partir de corps d'animaux, alors même que les corps qui sont utilisés sont très semblables aux nôtres. Jamais on utilise de dépouilles humaines pour fabriquer des animaux, à ma connaissance.
Et il y a un film justement qui parle de ça.
Ah ouais.
Qui s'appelle, je crois que c'est le violon rouge, mais je suis pas sûr. Et c'est, bon, c'est un blockbuster américain des années 90 qui parle justement d'un Stradivarius qui a un son extraordinaire. Mm-hmm. Et on découvre, donc gros spoil, hein, je balance l'info, mais on découvre à la fin du film qu'en fait ce Stradivarius, il a été verni avec du sang humain.
Oh.
Et c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça qu'il a un son si fort.
Oh, bah c'est extraordinaire, ça, c'est assez fascinant et dégoûtant en même temps, mais ouais, surtout fascinant.
Ça joue là-dessus.
Toi, si tu meurs un jour, tu voudrais qu'on réutilise tes os et ta peau pour faire de la musique ?
Oui, ou être empaillé.
Ou être empaillé ?
Ça me plairait.
Bon, voilà. Une troisième approche qu'on pourrait aborder, c'est ni une distinction, comme là on vient de voir, très nette entre les animaux et les humains, ni comme au début... des humains qui essayent d'apprendre aux animaux à faire de la musique comme eux-mêmes en font. Mais un troisième type d'approche pourrait être quand les animaux et les humains font de la musique ensemble. Et donc, ça, on pourrait avoir un exemple qui sont les cloches et les sonnailles du monde pastoral. Donc, c'est-à-dire les cloches qu'on accroche au cou des brebis ou des vaches. Donc, on dit que ces animaux sont ensonnaillés. J'ai appris ce terme-là. Et en fait, j'ai appris que les bergers choisissent des cloches différentes non seulement pour reconnaître leurs animaux et pas les confondre avec ceux du troupeau d'à côté, mais aussi ils choisissent ces cloches pour qu'elles aillent bien ensemble, en fait, pour que tous les animaux du troupeau, en faisant sonner leurs cloches ensemble, composent un accord qui soit agréable à l'oreille. Donc déjà, ça c'est assez fascinant en soi. Mais en plus, certains bergers accordaient leur flûte, quand ils jouaient de la flûte, aux cloches de leurs animaux et improvisaient en se laissant guider par les sonnailles que faisaient les animaux en déambulant là où ils mangeaient de l'herbe. On pourrait écouter pour ça un extrait qui est un extrait de cloches de rennes dans les campements des nomades de Sibérie.
Олені на стойбище горять 2,5 самоліна почему-то.
Merci, donc c'était les cloches des rennes des campements de nomades de Sibérie. Enregistrement qu'on a eu grâce
enregistrement maison.
Enregistrement maison, enregistrement chaton, si vous comprenez la dédicace. Bon, bref. Un dernier extrait musical que je voudrais vous faire entendre, c'est une musique qui, là aussi, s'inspire des animaux, mais bon, hélas, il n'y a pas les animaux dans cette musique. Mm-hmm. C'est juste un compositeur qui s'appelle Rimsky-Korsakov, qui a composé une pièce, je ne sais pas pourquoi elle était composée à l'origine, mais en tout cas, dans cet extrait, c'est un piano qui le joue. Ça s'appelle Le vol du bourdon, et ça imite de manière assez réussie, assez frappante, le vol du bourdon. Donc le bourdon, ce gros animal qui vibre comme ça et qui se déplace très vite.
Thank you.